France Musique. Musicopolis. Viotti, un Italien à Paris. Le Paris des années 1780 est déjà une ville cosmopolite. Ici se font et se défont les carrières. Venus de l'Europe entière, tous les virtuoses de quelque importance se pressent pour se faire entendre. Un passage réussi au concert spirituel est une carte de visite qui permettra ensuite d'avoir ses entrées un peu partout. C'est une consécration lorsque, comme Viotti, on est déjà passé par Turin, Dresde, Berlin, Varsovie et Saint-Pétersbourg. Lorsque Giovanni Battista Viotti arrive à Paris et fait sa première apparition au concert spirituel, il a 24 ans. Non seulement ce n'est plus un enfant prodige, mais il arrive véritablement en maître accompli, ce que tout le monde s'accorde à reconnaître. Pour le concert du 17 mars 1782, donné au concert spirituel dans la salle du Château des Tuileries à Paris, l'almanach musical note que, dès le premier jour qu'on a entendu M. Viotti, tout le monde s'est accordé à le placer au-dessus de tous ses concurrents. Les gens difficiles, qui aiment à trouver dans l'exercice des talents les motifs qui les autorisent à s'opposer à l'essor de la satisfaction publique, ont prétendu que le jeu de M. Viotti était quelquefois brusque, heurté. On a sans doute voulu désigner par là cette fierté de doigt et d'archet qui donne un caractère très prononcé et de l'âme au son. Le concerto de violon que M. Viotti a exécuté pour son début au concert spirituel, lit-on dans l'almanach musical, présentait un très grand nombre de difficultés qui lui ont fait produire des sons très extraordinaires pour cet instrument. M. Viotti les a passés avec une facilité surprenante. On aurait presque cru qu'il ne faisait qu'aller et venir pour son plaisir sur les passages épineux qu'il parcourait et qu'il n'avait d'autre objet que de montrer sa force et sa supériorité. La manière dont M. Viotti a joué l'adagio de son concerto n'a permis à personne d'être indifférent au fini précieux de son jeu. Thank you. Au moment où Giovanni Battista Viotti charme le public parisien pendant le carême 1782 au concert spirituel, il est déjà un violoniste et un compositeur accompli, et pourtant, il vient tout juste de quitter son professeur Gaetano Pugnani. Revenons un peu en arrière pour détailler son enfance et son adolescence, ses années de formation. C'est bien sûr encore une histoire d'enfant prodige. Né en 1755 dans un petit village du Piémont, si l'on en croit le dictionnaire de Fétis, Viotti est fils de forgeron. Un forgeron musicien amateur qui joue du cor de chasse et organise des réunions musicales. On n'est pas long à se rendre compte que le garçon est doué. Et très vite, à 11 ans, il est invité à venir s'installer à Turin, capitale de la province, chez le prince della Cisterna, qui le confie à Pugnani. Pugnani est alors au fait de sa carrière. Il est maître de chapelle du roi de Sardaigne, chef d'orchestre du Théâtre royal de Turin et le fondateur d'une école de violon qui reçoit nombre d'excellents élèves. Rapidement, Viotti devient son préféré. Gaetano Pugnani est un grand violoniste et un grand pédagogue. Il a eu lui-même pour professeur Giovanni Battista Somis, turinois comme lui et élève de Corelli. On voit donc une filiation directe de Corelli à Viotti. On lit d'ailleurs à leur sujet le même genre de description. Chaleur du son, virtuosité sans esbrouffe et parfait équilibre entre technique et musique. C'est avec Pugnani sans doute que Viotti apprend la théorie et la composition. Pugnani écrit dans tous les genres musicaux. Beaucoup de pièces pour violon, bien sûr, mais pas seulement. Il écrit aussi de la musique religieuse et des opéras. Viotti le reconnaîtra comme son unique professeur. C'est Pugnani qui le fait engager à 20 ans dans l'orchestre de la chapelle royale de Turin, au dernier pupitre des violons. Gaetano Pugnani veut certainement montrer au monde comme il a bien formé son élève Viotti. Lorsque celui-ci atteint 23 ans, il décide de l'emmener en voyage. Les voyages forment la jeunesse et les virtuoses sont très demandées partout en Europe. Première destination, Genève, et une belle rencontre, dit-on, à Ferney avec Voltaire. Puis séjour à Dresde, où il joue pour l'électeur de Saxe Frédéric Auguste III. Berlin, où il joue devant Frédéric II et fait de la musique avec le prince Frédéric Guillaume. La Pologne, où Viotti est l'objet des attentions du roi Stanislas Auguste, qui l'emmène avec lui à la chasse. À Saint-Pétersbourg, c'est l'impératrice Catherine qui le comble de grâce et de bonté. Il pousse jusqu'à Moscou et fait ample moisson de roubles. La tsarine voudrait l'engager, mais il refuse et il reprend la route. Cette fois-ci, la destination est Paris. Le Paris de 1781, année où Viotti arrive dans la capitale, est une très grande ville, peuplée d'environ 600 000 habitants et en plein développement. On urbanise la chaussée d'Antin, le quartier de l'Odéon, on inaugure le théâtre en 1782, on lotit le quartier de Choiseul vers la rue Richelieu, on reconstruit l'église Sainte-Geneviève, l'actuel Panthéon, on aménage le Champ de Mars. Le quartier Saint-Germain, rive gauche, est déjà couvert de beaux hôtels particuliers où se sont installées les familles d'aristocrates. On y fait beaucoup de musique dans les salons. Les jardins et les parcs se sont multipliés dans Paris, avec cafés, promenades et nombreuses attractions, comme le Tivoli ou le Vauxhall. L'Académie royale de musique est abritée par le Théâtre de la Porte-Saint-Martin, construit en 2 mois et demi à la demande de Marie-Antoinette pour remplacer la salle du Palais royal détruite par un incendie. Le théâtre des Italiens reçoit les opéras comiques et les opéras italiens. Les théâtres de la Foire et ceux du boulevard du Temple accueillent aussi de nombreuses pièces chantées. Et bien sûr, au moment du carême, lorsque les spectacles sont interdits, il reste encore le fameux concert spirituel. Probablement arrivé dans le courant de 1781 à Paris, Viotti fait ses débuts au concert spirituel en mars 82. Il est tout de suite apprécié, même si certains sont un peu étonnés des nouveautés qu'il apporte au jeu du violon. On a l'impression qu'il cherche des sons extraordinaires. En 82 et 83, il apparaît dans de très nombreux concerts et toujours avec autant de succès. Cependant, après la fin de 1783, il ne paraîtra plus en public à Paris. Et la raison en est inconnu. Viotti a peut-être mal vécu un événement qui se serait passé pour arrêter de se produire en public, mais nous n'en savons rien. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'invité un jour par la reine Marie-Antoinette à se faire entendre à Versailles, alors qu'il entame un concerto, le comte d'Artois arrive avec grand fracas. Notre Viotti ne fait ni une ni deux, il range son violon et s'en va. Cependant, il a trouvé à Paris d'autres maisons dans lesquelles il est accueilli avec le respect qui, selon lui, est dû aux artistes. Il y a dans la ville plusieurs orchestres privés entretenus par divers aristocrates. Viotti va diriger celui du prince de Guéménée, puis celui du prince de Soubise. Et puis, Viotti organise chez lui des matinées musicales pour ses élèves. Il partage son logement avec Cherubini, et là, tous les dimanches, le maître joue les esquisses de ses concertos et il fait jouer quintettes, quatuors et sonates. C'est le rendez-vous des violonistes. Leçons, les concerts avec orchestre dans les grandes salles des hôtels parisiens, la composition de nouvelles œuvres, voilà qui occupe Viotti. Pourtant, lorsque le coiffeur de la reine, qui a obtenu le privilège d'exploiter un théâtre, vient lui demander de se charger de la partie artistique, Viotti accepte. C'est une énorme entreprise. Sous le patronage de Monsieur, frère du roi, il réunit une compagnie d'actionnaires. Il met lui-même dans l'affaire la petite fortune qu'il avait amassée durant sa grande tournée. Il recrute deux compagnies de chanteurs pour pouvoir chanter l'opéra comique français et l'opéra italien, plus une compagnie de comédiens pour le théâtre parlé. Il forme un orchestre qui est bientôt, dit-on, le meilleur de Paris, avec Rode et Bayot au violon. Il ouvre le théâtre de Monsieur.
M'abandonne.
C'est au mois de janvier 1789 que le théâtre de Monsieur, dirigé par Viotti, donne ses premières représentations. Le succès est au rendez-vous. On monte 40 ouvrages la première année. Mais évidemment, 1789 n'est pas une année anodine. D'abord, en juillet, les théâtres ferment pendant un mois. Puis en octobre, la famille royale revient au château des Tuileries qui hébergeait le théâtre de Viotti. Il faut en trouver un autre. On s'installe quelque temps au boulevard du Temple avant de faire construire une nouvelle salle, rue Feydeau. L'inauguration a lieu le 6 janvier 91. À nouveau, le public est là, fidèle au poste. Mais les méchants veillent et vont bientôt se livrer à la calomnie. La période de la Révolution, comme les périodes de crise en général, incite frustrés et insatisfaits à lancer des attaques contre ceux qui réussissent. Viotti va être victime de sombres accusations. Si vous vous rappelez aussi qu'il a été au mieux avec Monsieur, le frère du roi, et qu'il a joué à Versailles pour Marie-Antoinette, évidemment, tout cela ne va pas plaider en sa faveur. Viotti sera obligé de quitter la France en 1792 et d'aller se refaire un nom et une carrière en Angleterre. Il reviendra à Paris sous la Restauration et il sera un temps directeur de l'Opéra en 1819, lorsque Monsieur sera devenu Louis XVIII. Mais là encore, la fortune de Viotti ne durera pas et il devra retourner en Angleterre où il mourra en 1824. Le final du concerto pour violon numéro 22 en La mineur de Giovanni Battista Viotti, c'était Itzhak Perlman au violon avec l'orchestre Juilliard, dirigé par Laurence Foster. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Philippe Thibault pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site, et Philippe Petit pour la réalisation. À réécouter sur francemusique.fr.